Bonjour à toutes et à tous. Et particulièrement, je voudrais souhaiter la bienvenue aux personnes qui nous reviennent nous visiter, pour les personnes qui viennent pour la première fois. En tout cas, soyez vraiment les bienvenus dans notre église. En ce moment, nous parlons beaucoup de la réforme des retraites. C'est un sujet sensible qui soulève pas mal de mécontentement et de protestations. Alors mon propos n'est pas d'en débattre ici, mais force est de constater que parler de la retraite en France, ce n'est pas rien. En France, nous valorisons le fait de travailler dur, et parce que le travail est souvent pénible, eh bien nous revendiquons de meilleures conditions, un meilleur traitement. Et nous, qu'est-ce que nous espérons lorsque nous pensons à la retraite? Un repos bien mérité après des années de labeur? Plus de temps pour faire enfin ce que nous n'avions pas eu le temps de faire les années précédentes? Ou bien encore, profiter plus du sabbat? Oui, c'est parce que c'est vraiment du sabbat dont nous allons parler aujourd'hui, et c'est pourquoi eh bien, je traite ce sujet-là. Nous sommes depuis 3 semaines dans cette série sur l'évangile de Marc. Nous avons déjà abordé le début de l'évangile, les premiers versets de l'évangile. Et dimanche dernier, nous avons lu le début du chapitre 2, avec cette déclaration de Jésus à l'homme paralytique, lorsque Jésus lui dit « Mon enfant, tes péchés te sont pardonnés ». Alors les scribes qui étaient présents ont été choqués, bien sûr, parce que ce que Jésus a déclaré, seul Dieu peut le faire, à moins que Jésus soit Dieu. Et cet épisode que nous avons vu la semaine dernière ouvre ce que les commentateurs ont discerné comme une série de 5 confrontations entre Jésus et des opposants religieux. 5 confrontations où Jésus doit, en quelque sorte, répondre à ce qu'on pourrait lui reprocher. J'ai évoqué à l'instant ce premier épisode, cette première confrontation, lorsque Jésus a déclaré qu'il pardonnait à cet homme. Dans la suite du texte, nous voyons qu'il est à table avec des pécheurs et on lui reproche cela, qu'il mange avec des pécheurs. Et Jésus, qu'est-ce qu'il dit? Il dit qu'il est venu pour appeler des pécheurs. Dans la suite du texte, toujours dans le chapitre 2, nous voyons qu'il y a aussi la question du jeûne. Eh bien, les disciples de Jésus ne jeûnent pas. Comment cela se fait? Eh bien, Jésus répond que, puisqu'il est présent, pourquoi les disciples jeûneraient? Et puis, c'est là que nous arrivons à notre texte sur le sabbat. Donc, 4e et 5e confrontation avec les pharisiens, en l'occurrence. Et à chaque fois, que ce soit en parole ou en acte, quelque chose chez Jésus dérangeait, scandalisait ses autorités religieuses. Or, la question du sabbat est celle qui va entraîner une réaction forte, au point que les opposants voudront la mort de Jésus. Et nous sommes seulement au chapitre 3 de l'évangile. Je vous invite à suivre la lecture de la parole de Dieu. Donc dans cet évangile au chapitre 2, à partir du verset 23. Un jour de sabbat, Jésus traversait des champs de blé. Tout en marchant, ses disciples se mirent à arracher des épis. Les pharisiens lui dirent, « Regarde, pourquoi font-ils ce qui n'est pas permis pendant le sabbat ?» Jésus leur répondit, « N'avez-vous jamais lu ce qu'a fait David lorsqu'il a été dans le besoin et qu'il a eu faim, lui et ses compagnons ? Il est entré dans la maison de Dieu, à l'époque du grand prêtre Abiathar, à manger les pains consacrés qu'il n'est permis qu'au prêtre de manger, et en a même donné à ses compagnons. » Puis il leur dit, « Le sabbat a été fait pour l'homme, et non l'homme pour le sabbat, de sorte que le Fils de l'homme est le Seigneur même du sabbat. » Chapitre 3, verset 1, Jésus entra de nouveau dans la synagogue. Il s'y trouvait un homme qui avait la main paralysée. Ils observaient Jésus pour voir s'il le guérirait le jour du sabbat. C'était afin de pouvoir l'accuser. Jésus dit à l'homme qui avait la main paralysée, « Lève-toi, là, au milieu. » Puis il leur dit, « Est-il permis, le jour du sabbat, de faire du bien ou de faire du mal, de sauver une personne ou de la tuer ?» Mais ils gardèrent le silence. Alors il promena sur eux un regard de colère, et peiné de l'endurcissement de leur cœur, il dit à l'homme, « Tends ta main !» Il la tendit, et sa main fut guérie. Les pharisiens sortirent, et tinrent aussitôt conseil avec les Hérodiens sur les moyens de le faire mourir. Prions ensemble. Seigneur, ta parole est la vérité, et j'ai tellement besoin de ton aide pour que ta parole soit bien expliquée, pour que ta parole puisse être transmise avec fidélité. Et je me reconnais totalement faible devant cette tâche, mais je te demande simplement, Seigneur, que par ton esprit, eh bien, tu nous fasses comprendre ta volonté, et que tu nous fasses saisir encore une fois toute la beauté qu'est le sabbat. Et nous voulons te remercier, Seigneur, parce que une chose est certaine, cet après-midi, tu vas parler. Au nom de Jésus. Amen. Alors, comme l'a dit David tout à l'heure, certains d'entre vous ont étudié ce texte en amont cette semaine. Et ensemble, cet après-midi, eh bien, nous allons réfléchir sur la question du sabbat à partir de ces deux moments du ministère de notre Seigneur Jésus. Et je vous avoue d'emblée qu'il n'a pas été facile de préparer ce message, tant le texte est sujet à de nombreuses interprétations. J'ai essayé de synthétiser tout ça sans perdre de vue le message central. Et il est clair que ce n'est pas aux pharisiens de se prononcer sur ce qui est permis ou non le jour du sabbat, mais à Jésus, le Seigneur du sabbat. Et au sujet du sabbat, eh bien, je vous propose d'écouter le Maître. Premièrement, le sabbat est fait pour l'homme. C'est ce que nous voyons dans ces versets 23 à 28. Le sabbat est fait pour l'homme. C'est ce que Jésus répond aux pharisiens qui condamnent ses disciples. Mais avant d'en venir à cette déclaration, alors regardons simplement comment tout ça commence. Nous sommes un jour de sabbat, vraisemblablement un samedi. Les disciples marchent avec Jésus et comme ils passent par des champs, eh bien ils arrachent quelques épis. Alors, ce qui est implicite ici dans notre texte, c'est qu'ils font cela pour manger. Ils n'arrachent pas juste les épis comme ça, mais c'est pour manger. Et d'ailleurs, si je compare avec les textes parallèles, Matthieu dit qu'ils avaient faim et qu'ils mangeaient ce qu'ils avaient arraché. Et Luc précise qu'ils mangeaient ces épis après les avoir froissés dans leurs mains. Et je suis sûr qu'à leur place, nous ferions la même chose. Alors, peut-être pas dans un champ de blé. Mais si vous aviez la possibilité de cueillir des fraises ou d'autres fruits, vous n'allez sans doute pas vous en priver. C'est vrai ou pas? Et d'ailleurs, sans doute que les disciples le savaient. Parce que d'après Deutéronome chapitre 23, verset 26, ils avaient le droit de cueillir des épis dans ces champs, même s'ils n'en étaient pas propriétaires. Ils avaient le droit de faire cela. Alors je lis juste le début de ce verset, Deutéronome 23, verset 26. Si tu entres dans les champs de blé de ton prochain, tu pourras cueillir des épis avec la main. Tu pourras cueillir des épis avec la main. Donc, la loi de Dieu autorise cela. Pourtant, ce même jour, les pharisiens ont leur mot à dire. Et c'est ce que nous voyons au verset 24. « Regarde, dit-il à Jésus, pourquoi font-ils ce qui n'est pas permis pendant le sabbat ?» Rien dans le verset du Deutéronome que je viens de lire n'indique une interdiction de cueillir des épis le jour du sabbat. Alors, à quoi ces pharisiens font-ils référence? Qu'est-ce qui n'est pas permis le jour du sabbat? Eh bien, d'après le quatrième commandement, il n'est pas permis de travailler ce jour-là. Il n'est pas permis de travailler. Et nous avons retrouvé, dans la tradition rabbinique, une liste de 39 travaux interdits le jour du sabbat. Et nous lisons en tête de cette liste, les travaux des champs. Par exemple, le fait de moissonner, c'était interdit le jour du sabbat. Et c'est sans doute pour cette raison que les disciples sont accusés de faire ce qui n'est pas permis. En arrachant ces épis, c'est comme s'ils étaient en train de moissonner. Et donc comme s'ils étaient en train de travailler. Et là, eh bien, alerte rouge, ils font ce qui n'est pas permis. Jésus ne tarde pas à répondre aux pharisiens. Et il commence par les Écritures, avec cette manière bien à lui de les interpeller. N'avez-vous jamais lu? Bien sûr, ils l'ont sans doute déjà lu, mais n'avez-vous jamais lu? Au verset 25 et 26 de notre texte, Jésus fait référence à l'histoire de David. Alors que David n'était pas encore sur le trône d'Israël, c'était même tout le contraire à ce moment-là. David était en train de fuir, de sauver sa vie, loin du roi Saül, qui en voulait à sa vie. Et c'est dans ce contexte de fuite que David, affamé avec ses compagnons, demande du pain. Et le pain qu'il va obtenir est un pain qu'il n'a pas le droit de manger, en temps ordinaire en tout cas. En temps ordinaire, David ne pouvait pas manger ce pain qui était réservé seulement aux prêtres. C'était du pain consacré. Et quand nous lisons le récit en 1 Samuel 21, nous comprenons que le prêtre à l'époque, qui s'appelait Ahimélech, n'avait rien d'autre sous la main. Il n'avait que ces pains-là, il n'avait rien d'autre. Et en voyant la situation de David et de ceux qui étaient avec lui, il leur est venu en aide comme il pouvait. David demande du pain, il n'a pas d'autre pain que ces pains-là. Et rien dans l'Écriture nous laisse penser que David ou le prêtre avait fauté à ce moment. Pourtant, Jésus, en rappelant l'histoire, dit bien que David, verset 26, a mangé les pains consacrés qu'il n'est permis qu'au prêtre de manger. David a donc fait ce qui n'était pas permis et n'a pas été condamné pour autant. Les pharisiens ne devaient pas avoir grand-chose à dire concernant cet exemple. Ils ne pouvaient qu'admettre que dans cette situation particulière, il y avait une exception par rapport à la loi. Et c'est plutôt embêtant pour des personnes qui veulent faire respecter scrupuleusement la loi. Là, Jésus souligne qu'il existe aussi des situations où il y a des exceptions. Et les pharisiens sont bien embêtés. Et Jésus montre par là que leur question n'est pas pertinente. Parce que les pharisiens ne posent pas cette question du pourquoi font-ils ce qui n'est pas permis. Ils ne posent pas cette question selon la loi de Dieu, mais ils posent cette question selon leur tradition. Oui, selon leur tradition, les disciples de Jésus ont enfreint les règles. Et or, voilà ce que Jésus veut t'enseigner. Verset 27. Le sabbat a été fait pour l'homme, et non l'homme pour le sabbat. De sorte que le Fils de l'homme est le Seigneur même du sabbat. Jésus connaît le vrai sens du sabbat. Il est, comme il le dit ici, le Seigneur du sabbat. C'est le mieux placé pour en parler. C'est celui qui a l'autorité de définir les règles du sabbat. C'est celui qui a l'autorité pour dire ce qui est permis ou ce qui n'est pas permis. Et c'est déjà la deuxième fois dans ce chapitre 2 que Jésus emploie cette expression qui le désigne, le Fils de l'homme. La première fois, nous l'avons vu. Tout à l'heure, je l'ai rappelé. C'est quand Jésus a déclaré que le Fils de l'homme a sur la terre le pouvoir de pardonner les péchés. Et ici, le Fils de l'homme, eh bien, qu'est-ce qu'il est dit à son sujet? Qu'il est le Seigneur même du sabbat. Verset 27. Et qui d'autre que Dieu est maître du sabbat? Jésus dit à ses pharisiens une vérité à propos du sabbat qu'ils n'avaient sans doute pas encore saisie jusqu'à présent. L'homme n'a pas été fait pour le sabbat, dans le sens que le sabbat n'est pas une fin en soi. L'homme a été fait, vous pouvez compléter? L'homme a été fait pour Dieu, mais pas pour le sabbat. dressé comme un absolu par les pharisiens, pour qui arracher des épis ce jour-là est condamnable. L'homme n'a pas été fait pour le sabbat, mais il a été fait pour Dieu. Ce qu'il faut comprendre du sabbat, c'est que Dieu l'a instauré pour l'homme, pour que l'homme puisse profiter d'un jour où il cesse son travail, donc un jour où il se repose, un jour où il peut vivre sa communion avec Dieu sans avoir besoin de penser au travail. Et il est utile à cet égard que nous relisions comment Dieu a commandé le sabbat à Israël. Et j'aimerais simplement relire dans Exode chapitre 20, les versets 8 à 11, dans ce texte sur les 10 commandements, voici comment Dieu donne cette loi du sabbat. « Souviens-toi de faire du jour du repos un jour saint. Pendant 6 jours, tu travailleras et tu feras tout ce que tu dois faire. Mais le 7e jour est le jour du repos de l'Éternel, ton Dieu. Tu ne feras aucun travail, ni toi, ni ton fils, ni ta fille, ni ton esclave, ni ta servante, ni ton bétail, ni l'étranger qui habite chez toi. En effet, en 6 jours, l'Éternel a fait le ciel, la terre, la mer et tout ce qui s'y trouve, et il s'est reposé le 7e jour. Voilà pourquoi l'Éternel a béni le jour du repos et en a fait un jour saint. » Et puis sa version dans Deutéronome chapitre 5, versets 12 à 15, qui reprend les 10 commandements, mais un peu différemment pour le commandement du sabbat. Voici ce que nous lisons. « Respecte le jour du repos en faisant un jour saint, comme l'Éternel ton Dieu te l'a ordonné. Pendant 6 jours, tu travailleras et tu feras tout ce que tu dois faire. Mais le 7e jour est le jour du repos de l'Éternel ton Dieu. Tu ne feras aucun travail, ni toi, ni ton fils, ni ta fille, ni ton esclave, ni ta servante, ni ton bœuf, ni ton âne, ni aucune de tes bêtes, ni l'étranger qui habite chez toi, afin que ton esclave et ta servante se reposent comme toi. Tu te souviendras que tu as été esclave en Égypte et que l'Éternel ton Dieu t'en a fait sortir avec puissance et force. Voilà pourquoi l'Éternel ton Dieu t'a ordonné de respecter le jour du repos. » Dieu a fait de ce 7e jour de la semaine un jour qui lui est consacré. Un jour où c'est lui qui est au centre, et de manière pratique, cela se vit en cessant de travailler. Assurément, dans notre texte, ni Jésus ni ses disciples n'ont enfreint ce commandement. Et en lisant ce que Sylvain Romerowski avait écrit sur le sujet, et notamment à propos du texte du Deutéronome, j'ai été interpellé par une vérité qui est tellement importante pour l'homme et la femme moderne. Voici ce qu'il écrit. La version deutéronomique du Décalogue, c'est-à-dire des 10 commandements, enseigne ainsi à l'Israélite que sa vocation première n'est pas le travail, mais le culte rendu au Seigneur. Sa vocation première n'est pas le travail, mais le culte rendu au Seigneur. Le sabbat est le signe que l'homme n'a pas été fait pour être esclave du travail, mais pour rendre un culte au Seigneur et participer ainsi au sabbat du Seigneur en jouissant de sa communion comme à l'origine. Souvenons-nous, mes amis, que le sabbat est un don de la part de Dieu pour son peuple. Ce peuple, souvenez-vous, qui était en Égypte, esclave, n'ayant pas de jour de sabbat. Et après les avoir libérés, Dieu leur donne ce commandement. Reposez-vous. Ne travaillez pas. Un jour. Et le temps est trop court pour que j'évoque en détail les différentes manières dont les chrétiens vivent le sabbat. Certains observent un jour particulier, en l'occurrence le dimanche. D'autres, qui ne se considèrent plus sous la loi, eh bien vivent une totale liberté par rapport au fait d'observer ou non un jour de sabbat. Et d'autres encore, eh bien considèrent que le sabbat est une réalité de tous les jours, puisque Christ a tout accompli, de telle sorte que notre vie entière, dans tout ce que nous faisons, est un culte rendu à Dieu, une vie pour sa gloire. Et On pourrait en discuter, on pourrait en débattre, on pourrait développer tout cela, et si vraiment vous voulez en débattre, je suis prêt à débattre avec vous. Mais simplement, je voudrais lire un texte de l'apôtre Paul qui dit ceci. Il écrit aux chrétiens de Rome, donc dans l'épître aux Romains, chapitre 14, les versets 5 et 6. « Pour celui-ci, tel jour a plus d'importance qu'un autre. Pour celui-là, ils sont tous égaux. » À chacun d'avoir une pleine conviction en lui-même. Celui qui fait une distinction entre les jours le fait pour le Seigneur. Pour certains, un jour, comme le jour du sabbat, est un jour important, et on peut respecter cela. Et puis pour d'autres, eh bien, tous les jours sont égaux. Et nous respectons cela aussi. Mais dans tous les cas, il nous faut entendre ce que Jésus dit ici. Le sabbat a été fait pour l'homme. Donc, nous devons en profiter. Le sabbat a été fait pour l'homme, donc nous devons en profiter. Nous n'avons pas été faits pour le sabbat, ni pour le travail, mais comme je l'ai dit tout à l'heure, pour Dieu. Et cela me rappelle que le sabbat, si je veux le vivre, eh bien c'est pour le Seigneur. En particulier en mettant à part un jour sans aller au bureau, sans aller sur mon lieu de travail, sans télétravailler, sans me préoccuper de mon travail. Un jour où je ne pense pas à tout ça. Parce que ce jour-là, je veux vivre le fait que Dieu est plus important que mon travail. Et je voudrais ouvrir une parenthèse par rapport à mon expérience lorsque je suis ici le dimanche. Plus d'une fois, lors des chants que nous entonnons durant le culte, je me suis dit que c'était ça le plus important. Que j'étais à ma place. The place to be. Être en train d'adorer Dieu avec le peuple de Dieu. Ça, c'est le plus important. Dans ces moments-là, Je me sens repris, parce que je repense à ma fâcheuse tendance à mettre parfois mon cœur dans des choses futiles. À me dire que je peux perdre beaucoup de temps dans des choses futiles au lieu de passer du temps avec mon Dieu. Et je me sens repris de me dire qu'en fait ça c'est tellement important et que j'y consacre si peu de temps parfois. Je ferme la parenthèse. Même si mon ministère occupe une place importante dans ma vie, il n'est pas plus important que Dieu lui-même. Quand je prends le temps de m'arrêter pour Dieu, j'exprime que j'aime plus Dieu que mon travail. Et je le dis d'autant plus à celles et ceux d'entre nous qui aiment particulièrement leur travail. Bien sûr, quand nous travaillons, nous le faisons pour Dieu. Ce n'est pas que le pasteur qui travaille pour Dieu, ce n'est pas que les missionnaires ou les personnes qui travaillent dans les œuvres chrétiennes. Mais quand nous nous reposons, nous le faisons également pour Dieu. Et cela d'autant plus parce que notre temps est dédié à l'adorer, à vivre notre relation avec Dieu, en étant juste concentré sur lui. Et je remercie David de nous avoir conduits dans des chants qui nous rappelaient cela. Cette communion, ce privilège que nous avons d'être en communion avec Dieu et de se dire, mon désir, c'est d'être près de toi. C'est tout mon bien. Dieu nous a donné le sabbat pour que nous puissions en profiter avec lui. Et c'est un privilège quand nous pouvons le vivre ensemble, chacun et chacune mettant de côté son travail. Cet après-midi, c'est un privilège de pouvoir le faire ensemble. De se dire, j'ai pas besoin de penser à mon travail. Je peux juste penser à Dieu. Et vivre mon sabbat avec mon frère, ma sœur en Christ. C'est un privilège. Et nous le savons que certains chrétiens dans le monde n'ont pas ce privilège-là. Et si tu ne travailles pas ou si tu es à la retraite, tu as un avantage incroyable pour profiter du sabbat. Non pas seulement un jour, mais chaque jour. Je sais que tu ne fais pas rien, mais au milieu de tes activités, considère que le sabbat a été fait pour toi aussi, qui n'a pas ou qui n'a plus à proprement parler d'activité professionnelle. Le sabbat aussi a été fait pour toi. Ça va ? Eh bien, considérons maintenant le deuxième épisode dans Marc chapitre 3. Et cette deuxième partie que j'ai intitulée « Jésus, le bienfaiteur du sabbat ». Changement de lieu, mais toujours un jour de sabbat. Verset 1, « Jésus entra de nouveau dans la synagogue. Il s'y trouvait un homme qui avait la main paralysée. » Nous pouvons être étonnés lorsque Marc écrit « de nouveau ». Parce que dans la scène précédente, Jésus était à l'extérieur. Donc comment se trouve de nouveau dans la synagogue? Eh bien, certains pensent que cela fait référence à la première scène où Jésus enseignait à la synagogue. Il faut retourner au chapitre 1. Chapitre 1, verset 21. Et donc ici, Jésus serait de nouveau dans cette même synagogue à Capernaum. La première fois, c'était avec un homme qui avait un esprit impur. Et puis cette fois-ci, c'est un homme qui ne peut plus faire usage de sa main. Littéralement, sa main était desséchée. Et ceux qui observent Jésus ne sont pas nommés au verset 2, mais ce sont sûrement les pharisiens que Marc mentionne au verset 6. Encore eux, les pharisiens! Ils savent déjà que Jésus ne fait pas les choses à leur manière. Et cette fois, ils ont l'occasion de trouver un nouveau motif d'accusation. Si Jésus guérit cet homme le jour du sabbat, il transgresse le sabbat. Soigner, eh bien c'est l'œuvre d'un médecin. C'est donc travailler. Et tout de même, il faut quand même préciser que la tradition rabbinique admettait une exception. Si la vie de la personne était en danger, là, on pouvait lui porter secours le jour du sabbat. Mais visiblement, cet homme qui avait la main paralysée n'était pas en danger de mort. Et la preuve au verset 3. Jésus dit à l'homme qui avait la main paralysée, « Lève-toi là au milieu. » L'homme peut marcher, l'homme peut se tenir debout. Il n'est pas en danger de mort à ce moment-là. Nous ne sommes pas dans le cas des exceptions. Et dans sa démarche, Jésus montre qu'il a l'intention de faire quelque chose pour cet homme. Et nous savons, par tout ce que Marc nous a déjà raconté, que Jésus a le pouvoir de le guérir, que cela fait partie de son ministère. Alors regardons ce que dit Jésus au verset 4. « Est-il permis le jour du sabbat de faire du bien ou de faire du mal, de sauver une personne ou de la tuer ?» Jésus demande à ceux qui sont présents d'évaluer ce qui est permis ou non le jour du sabbat. Et cette question est à mettre en lien avec l'homme qui se tient au milieu. Faut-il faire du bien ou du mal le jour du sabbat? Logiquement, nous dirions faire du bien. Et en réalité, Jésus ne laisse pas d'autre alternative. Parce que le jour du sabbat, il est certain qu'il n'est pas permis de faire du mal. Il est certain qu'il n'est pas permis de tuer. Donc Jésus ne laisse pas le choix en réalité dans sa question. Pourtant, vous observez la réaction de l'assistance. Qu'est-ce que les gens sont en train de faire? L'assistance ne veut pas donner raison à Jésus. L'assistance ne dit rien. Et c'est là toute l'expression de leur cœur endurci. Et Marc écrit simplement au verset 4, « Ils gardèrent le silence ». Face à une telle question, ils gardèrent le silence. Et vous constatez la réaction de Jésus au verset 5. Alors il promena sur eux un regard de colère et peiné de l'endurcissement de leur cœur, il dit à l'homme, tends ta main. Jésus est à la fois en colère et triste. Des trois évangiles qui rapportent cette scène, Marc est le seul à le mentionner ici. Et le cœur endurci, c'est le cœur de ceux qui ne veulent pas comprendre. Sans doute de ceux qui ne peuvent pas comprendre, mais de ceux qui ne veulent pas comprendre aussi. Et dans cette démonstration publique, eh bien Jésus confirme, en guérissant cet homme, qu'il est permis de faire du bien le jour du sabbat. Que rien dans la loi de Dieu ne l'interdit. Posons-nous la question. Comment éviter l'endurcissement dont les pharisiens ont fait preuve? Comment éviter d'être comme les pharisiens à l'affût du moindre pas, du moindre faux pas? Comment éviter d'être endurci? Eh bien, d'abord, nous ne devons pas oublier que respecter le sabbat ne nous accorde pas le salut. Et de la même manière, nous ne devons pas faire croire aux autres qu'ils obtiendront la faveur de Dieu s'ils respectent le sabbat. Tel est le piège du légalisme, et vous voyez à quel point cela endurcit. Nous ne devons pas nous précipiter pour condamner l'autre parce qu'il ne respecte pas le sabbat et pour lui faire penser que Dieu lui retirerait son salut. Ensuite, au lieu de regarder à notre capacité à suivre ce commandement, regardons à celui qui l'a parfaitement accompli. Regardons à celui qui n'a pas échoué dans son respect du sabbat. Alors que les pharisiens ne pouvaient admettre le bien que Jésus avait fait ce jour-là, soyons reconnaissants que Jésus ait fait un tel bien. Soyons reconnaissants que Jésus ait obéi au commandement du sabbat en même temps que celui d'aimer son prochain. Et c'est grâce à une telle obéissance que son sacrifice pour nos péchés a été accepté par Dieu. C'est grâce à sa justice parfaite que nous sommes déclarés justes. Nous devons nous souvenir que le jour du sabbat, le seul qui ait fait le bien par excellence, c'est lui. Ce n'est pas notre obéissance qui obtient la faveur de Dieu, mais c'est bien la sienne. Alors que signifie le fait que Jésus guérisse le jour du sabbat? Il le fait aussi les autres jours, mais particulièrement le jour du sabbat, pourquoi? Qu'est-ce que ça signifie? Assurément, le jour du sabbat n'est pas un jour où il faut cesser de faire preuve de compassion. Là où les pharisiens appuyaient, insistaient tellement sur ce qui n'était pas permis, sur toutes les interdictions, Jésus montre de manière publique ce qui est permis de faire le jour du sabbat. Les pharisiens appuient sur ce qui est interdit. Jésus appuie sur ce qui est permis. Et c'est encore Sylvain Romerowski que je mentionne et qui suggère que par la guérison, Jésus donne aux infirmes de vivre pleinement le sabbat comme une fête. Par la guérison, Jésus donne aux infirmes de vivre pleinement le sabbat comme une fête. Alors, Marc ne mentionne pas la réaction de l'homme, mais on peut imaginer sa joie. Il a été guéri. Vous imaginez bien sa réaction après coup. Jésus a vraiment fait en sorte que le sabbat soit fait pour l'homme, que l'homme puisse en profiter. Et à la lecture de ce texte, nos regards sont tournés vers le bienfaiteur. Jésus ne guérit pas seulement parce qu'il voit ce besoin chez cet homme. Jésus guérit parce que c'est lui qui vient annoncer la bonne nouvelle. Parce que c'est lui le sauveur. Parce que c'est lui le Seigneur du sabbat. Mais cela, les pharisiens ne le reconnaissent pas. Ils ne le comprennent pas. Et bien au contraire, ils vont se concerter avec des partisans d'Hérode pour voir comment ils peuvent se débarrasser de Jésus. Et comme certains commentateurs l'ont relevé, nous apercevons ici toute l'ironie de la situation. Ceux qui condamnent si facilement les transgresseurs du sabbat transgressent eux-mêmes ce jour en choisissant la voie du mal, en choisissant de tuer. Voilà l'ironie. Eux qui dénoncent si facilement les autres lorsqu'ils transgressent le sabbat, eh bien, le transgressent eux-mêmes en choisissant la voie du mal. Et nous sommes parvenus à ce point de l'histoire où les opposants de Jésus méditent les moyens de le faire mourir. Jésus a guéri un homme et eux méditent les moyens de le faire mourir. Voyez le contraste. L'ombre de la croix apparaît déjà ici. Et je voudrais terminer en regardant encore ce que Jésus a fait ce jour-là, en guérissant cet homme. Je ne peux m'empêcher de me focaliser dans ce texte sur le maître du sabbat. Et c'est ce que je vous invite à faire. Lorsque nous lisons ce texte, de nous focaliser sur lui. Parce que je sais qu'il est celui qui a donné sa vie pour nous. Pour que nous puissions être en communion avec Dieu. Pour que nous puissions profiter du sabbat. Il a donné sa vie pour nous. Pour que nous puissions profiter du sabbat. Sans Jésus, nous ne profitons de rien du tout. Mais comme cet homme infirme, nous avions besoin d'une guérison, non pas physique, mais spirituelle. Nous avions besoin que nos péchés soient pardonnés. Nous avions besoin d'être réconciliés avec Dieu. Et Jésus a rendu cela possible. Non pas en disant seulement un mot, comme c'est le cas dans notre texte, mais par sa mort et sa résurrection. Oui, si le sabbat a été fait pour l'homme, mais que l'homme n'est pas réconcilié avec Dieu, eh bien l'homme n'en profite pas. Et de même, si parmi nous, nous ne sommes pas réconciliés avec Dieu, eh bien nous ne profitons pas de ce sabbat. Puisque nous ne sommes pas en communion avec Dieu. Oui, nous chérissons le fait que Dieu nous ait donné le sabbat, de pouvoir profiter de son repos. Mais nous chérissons encore plus le fait que Dieu ait donné son Fils pour que nous puissions vivre pleinement le sabbat, en communion avec lui. Depuis la venue de Jésus, il n'est pas possible de vivre le sabbat sans faire référence au maître du sabbat. Jésus, dans notre texte, avait l'autorité de déterminer ce qui était permis ou non de faire ce jour-là, car il est le Seigneur. Et c'est le Seigneur qui nous rappelle encore cet après-midi que le sabbat a été fait pour l'homme, et qu'il est venu en bienfaiteur pour que nous puissions en profiter. Et cela lui a coûté sa vie. Alors d'autant plus on veut profiter de ce sabbat, d'autant plus on veut chérir la possibilité de pouvoir s'arrêter, d'arrêter notre travail pour juste se consacrer à lui. Parce que Jésus a donné sa vie pour cela, pour que ça soit possible. Notre aspiration n'est pas de vivre uniquement un seul jour pour Dieu, mais chaque jour de la semaine, car c'est à cela que ressemblera notre sabbat final. Lorsque nous serons pour l'éternité avec lui. Ce n'est pas un seul jour, mais tous les jours. Et sans négliger notre travail, et tout en sachant s'arrêter, eh bien, profitons du sabbat que Dieu nous a donné. Amen. Je vous invite à pouvoir prendre un temps pour répondre à la parole de Dieu par rapport à ce que Dieu a pu vous dire, par rapport à ce que vous pouvez encore changer dans vos habitudes, si Dieu vous a interpellé là-dessus, par rapport à votre compréhension du sabbat, et bien que vous puissiez maintenant prendre le temps de répondre dans la prière à notre Dieu. Notre Dieu et notre Père, nous voulons te remercier pour tout ce que nous pouvons comprendre de ta parole. Nous voulons te remercier, Seigneur, de nous rappeler qu'il nous faut nous arrêter. Que nous ne pouvons pas indéfiniment travailler. Alors bien sûr, nous le savons, et comme nous connaissons nos limites, eh bien parfois nous savons nous arrêter. Mais pas toujours pour les bonnes raisons. Et pas toujours pour pouvoir justement consacrer notre temps à être en communion avec toi. Alors nous te demandons, Seigneur, toi qui nous as accordé le sabbat, toi qui nous as accordé de pouvoir vivre cette communion avec toi grâce à Jésus-Christ, nous te demandons, Seigneur, que nous puissions en profiter, parce que c'est un don de ta part, que nous puissions en profiter encore et encore, et chaque jour de notre vie. Parce que la réalité, c'est que tu es plus important que notre travail. Tu es plus important que toutes nos autres occupations. Tu es plus important que tout ce que nous sommes en mesure de faire dans le temps qui nous est imparti. Et nous voulons encore t'exprimer combien tu es important en mettant du temps à part, en nous arrêtant devant toi et en considérant que si nous pouvons effectivement profiter de ce bienfait, c'est grâce à Jésus. Parce que c'est Jésus qui nous a réconciliés à toi. Alors merci Seigneur de continuer à façonner notre cœur, de continuer à nous parler pour que nous puissions, oui, appliquer ce que nous venons de comprendre au sujet du sabbat. Que nous puissions respecter ce don que tu nous accordes. Et que nous puissions d'autant plus le respecter parce que ton Fils Jésus-Christ est mort pour nous. Et nous voulons te remercier, Seigneur, encore pour ta parole qui nous éclaire. C'est au nom de Jésus que nous te prions. Amen.